Henry Lázaro, sou Rádio Oscar pra você.
Voilà, je m'assurais juste que vous ne dormiez pas. Apparemment, ça devrait être réglé si c'était le cas. Eh bien, une séquence métal à l'instant qui va démarrer. Et ben, bien sûr, je suis pas tout seul. Hein. Benjamin, mon comparse, est venu me rejoindre.
Ah, il fallait bien que je t'accompagne pour que je vérifie que tu fasses pas de conneries. Hein. Oh, au moins la première séquence.
Et chacun son tour. Hein.
Oui.
Et ben, bien sûr, on a Joris et Clément qui traînent là, qui se promènent, dis donc.
Ben oui, et puis ben, moi, je commence un petit peu à connaître... Le métal avec la séquence rock and jazz qu'on anime Valentin avec Daniel. Et donc du coup, bah, voilà, je suis venu ici pour découvrir un peu l'histoire dans le métal.
Alors là, on va démarrer avec les histoires, les petites histoires qu'on retrouve parsemées un peu partout dans le métal. Il y en a qui sont assez intéressantes, j'en ai retenu, on va dire, 3,5 en fait, pour être précis. Et on démarre avec Black Sabbath. Alors, le groupe fondé, si j'ai bien compris, en 68, quelque chose comme ça. En tout cas, le premier album est de 70, ça c'est sûr. On leur attribue très souvent la création du genre, hein, du heavy metal, ou en tout cas le son. Il y en a certains qui vont aller chercher en disant « Ouais, c'est Alice Cooper », ou alors on peut remonter jusqu'à Jimi Hendrix ou « I Want Butterfly ». On peut aller très loin comme ça. Hein. Comme disait l'autre, on peut s'amuser à aller chercher Annie Cordy. Hein.
Même jusqu'au... Quand même pas. Il y en a qui vont même jusqu'au Kinks.
Voilà, tu vois, on peut aller très loin. Donc, mais le vrai heavy metal, on va dire, en tant que tel, c'est Black Sabbath.
Oui.
Voilà. Et c'est même très orienté doom, hein, avec les standards modernes.
Non, ça, c'est sûr.
Bon, bien sûr, ils ont plusieurs chanteurs dans le tas. On va noter le premier, Ozzy Osbourne, qu'on a, bah, forcément, qui a été très connu avec ses frasques, hein, notamment le coup de la chauve-souris sur scène, hein, donc qu'il a voulu décapiter avec ses dents, et après il s'est rendu compte que c'était pas un jouet, en fait, c'était une vraie. Donc il a dû aller se faire vacciner en quatrième vitesse contre la rage. Voilà, voilà. Ouf. Il a eu sa propre émission de télé-réalité, hein, Ozzy Osbourne, c'est vous dire un peu le bonhomme.
Et il aurait dû être mort deux ou trois fois, c'est ça?
Ouais, par rapport à la quantité d'alcool et de drogue qu'il a consommé, certains scientifiques ont dit qu'il aurait dû être mort au moins deux fois. Mais c'est un miracle de la science, hein. Ce type est encore vivant. Allez savoir pourquoi. En tout cas, il y en a eu un autre qui malheureusement est décédé. Oui. Hein. Bon, il n'y a pas eu que lui, bien sûr, mais voilà. Ronnie James Dio, donc, qui a officié dans Black Sabbath de 79 à 82, si je ne m'abuse. Donc, bien sûr, il a eu son projet solo, Dio, et le projet intitulé Wenbo, que je vous conseille fortement. Et la petite histoire, pour commencer, c'est celle du signe des cornes. Parce que tout le monde imagine, dans un concert de métal, les métalleux comme ça qui font les cornes, etc. Ça date des années 80, justement, avec Ronnie James Dio, comme on le disait. Et en fait, il en avait marre que les gens fassent le signe Peace and Love ou des conneries comme ça. Il fait, on va changer un peu, parce que sinon, on va nous confondre avec les hippies. Bon, j'interprète un peu, mais vous voyez. Et en fait, donc, il est revenu sur le signe que lui faisait sa grand-mère sicilienne, donc le malocchio, si je le prononce correctement. C'est-à-dire que les cornes, en Sicile, c'était un moyen de protéger du mauvais œil.
Wow.
Et comme quoi, on a un peu forcément l'image inverse en tête.
Oui,
avec
c'est
toute,
vrai.
L'image du diable, oui, c'est vrai.
Voilà, avec toute la vie, le visuel autour du métal. Eh bien, au départ, pas du tout.
Le truc des hippies, ça me rappelle l'épisode de South Park.
Oui, les hippies détestent le Slayer, donc là, normalement, on les a chassés déjà.
C'est ça.
Eh bien, écoute, Black Sabbath, on va s'en écouter un peu, histoire d'illustrer ça. Donc, bien sûr, période Ronnie James Dio, hein, 1980, avec Heaven and Hell, c'est le morceau Neon Nights.
Things never last. Nothing's in-
partir en live.
Ah, ça vous a plu, cette histoire de corne, dis donc. Dès qu'on parle de doigts, de toute façon, il y a du monde, apparemment. Hein.
Deux doigts, en plus.
Ah là là.
Juste un peu.
Tu veux pas un whisky d'abord? Voilà. Comme ça, on fait le lien avec le cinéma.
Merci,
toi,
voilà, tac, tac, voilà, tout se regroupe.
Voilà, eh bien écoute, on enchaîne avec les... Alors, Twisted Sister, c'est peut-être un groupe qui vous parle aussi.
Les sœurs enragées.
Ouais, les sœurs tarées, ouais. Les sœurs dérangées, peu importe. Si je ne m'abuse, les Américains, c'était fondé en 72, quelque chose comme ça. Avec un visuel très glam, hein, finalement, c'est-à-dire du rose, de la dentelle, du froufrou, la choucroute sur la tête, hein, et j'en passe. L'histoire que je trouve très intéressante avec eux, c'est notamment le chanteur, donc Dee Snider, qui, en 85, était convoqué pour une audition par une commission du Sénat américain. Alors, le PMRC, ça vous dit peut-être pas grand-chose, si j'explicite le Parents Music Resource Center. Non ? C'est les parents, à l'époque, notamment menés par Madame Gore, hein, la femme d'Al Gore, qui était contre le sexe, la violence, le satanisme, la drogue et l'alcool dans la musique.
Ah, c'est gore, ça.
Waouh. Ah, t'as vu ça?
Quelle violence.
Et donc, c'est à eux qu'on doit le sticker parental advisory. Vous savez, pour dire, attention, donnez pas ça à vos enfants, quoi. Et donc, à l'époque, ils voulaient simplement et purement faire interdire certains albums. Hein. Beaucoup de métal, mais pas que, d'ailleurs, puisqu'il y avait des chansons pop, notamment, qui étaient très axées sexe, hein.
Madonna.
Voilà, de manière explicite ou non d'ailleurs. Et bah, à l'époque, il faisait pas forcément bon s'y opposer, j'ai envie de dire. On notera Frank Zappa, qui est un album totalement instrumental, hein, intitulé Jazz from Hell. Hein, ça doit, je sais pas si ça te parle, Daniel. Qui normalement, si je ne m'abuse, a le sticker Parental Advisory.
Il l'a, effectivement, ça me disait bien quelque chose. Voilà. Tu me le rappelles.
Et alors que normalement, ça concernait les paroles, et là, il y en a pas. Voilà. Et ouais. Comme quoi, lorsque Dee Snider a été convoqué par cette commission, le but était d'avoir quelqu'un en face pour répondre à ces accusations. Et ils ont dit, ben, Dee Snider, il imagine que ces gens se sont dit, on va prendre un mec qui a l'air complètement con, et comme ça on va le ridiculiser. Et le problème, c'est que tel est pris qu'il croyait pendre, puisque ben, Dee Snider est arrivé grimé un peu comme à son habitude, donc avec sa veste, tu sais, la veste à patch, comme ça, vraiment le Marcel, avec sa soucroute sur la tête. Et il joue un peu l'idiot, en mode, il comprend pas, il a le discours plié en quatre dans la poche arrière de son jean, et il le dit lui-même, hein, il commence à le déplier comme le devoir d'un mauvais élève, qu'il aplatit sur la table, en mode, oh, j'ai préparé ça à l'arrache et tout. Et en fait, son discours, il l'a travaillé pendant des semaines. Et donc, les mecs s'attendaient vraiment à entendre un vrai crétin en face d'eux, et pas du tout. Et il a donc un discours très construit sur la nécessité, déjà, que les gens se renseignent sur ce qu'écoutent leurs enfants. C'est-à-dire, c'est un peu le même débat qu'on a actuellement avec les jeux vidéo. Le problème, c'est pas qu'il y ait des œuvres violentes ou etc. C'est qu'elles atterrissent entre les mains de n'importe qui parce que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Dee Snider est un père de famille et il le dit lui-même, il donnerait pas n'importe quoi à son gosse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, la petite anecdote qui est rigolote aussi, justement, il disait que Madame Gore trouvait qu'un titre Under the Blade renvoyait donc à une certaine torture, en fait. Et pas du tout, puisque ça parle de la peur du guitariste de passer sur le billard pour se faire opérer. Et la réponse de Dee Snider, c'est, ben écoute, si elle a trouvé ça dans les paroles, c'est ce qu'elle y cherchait au départ, donc elle l'avait dans sa tête avant qu'on lui mette. Voilà, donc une manière de dire qu'elle avait déjà l'esprit tordu. Hein, twisted.
Twisted,
voilà. Voilà, voilà. Donc, on va illustrer ça avec un morceau, d'ailleurs, j'ai envie de dire, dans le clip, il est assez sympathique, puisqu'il renvoie justement à la relation par enfant et au refus d'une certaine autorité. C'est sur l'album de 84, Stay Hungry. On va écouter We're Not Gonna Take It.
We'll be right back.
Alors, Benjamin, si je te dis tournée d'adieu Alcatraz.
2017
par exemple.
C'est ça, hein, c'est la dernière fois qu'on les a vus, tous ces.
Il me semble, oui.
Eh oui, parce que ce groupe, malheureusement, n'existe plus.
Voilà, donc, ils ont. On notera notamment que le We Are Not Gonna Take It, ils ont terminé là-dessus. Et on pouvait l'entendre pendant encore un quart d'heure au moins après, jusqu'au parking. Tout le monde continue à le chanter, c'est un vrai hymne. Bah Joris, t'as déjà entendu du Dee Snider dans l'émission séquence Rock and Jazz?
Bah bien sûr, oui, oui.
C'était Love by Enemy que j'avais choisi, hein.
Ouais.
Puisque il continue sa carrière solo et plutôt brillamment.
Et oui, c'est totalement aussi dans cette musique qu'on peut penser aussi à. Je pense qu'elle a dû être intégrée dans un film parce que c'est vrai que c'est très dynamique et c'est très jovial. Ça, en générique de fin, c'est parfait cette musique. Ça reste en tête, comme tu dis.
Il y a une autre musique de Twisted Sister qui était utilisée pour un film, c'est I Wanna Walk.
Oui, bien sûr. Je me demande même si c'était pas dans le film Bob l'éponge. Alors tu vois à quel point ça a été utilisé et réutilisé.
Moi je pense à Road Trip, mais bon.
Oui, non, mais voilà, c'est pour te dire à quel point ça passe partout, comme dirait l'autre. On va revenir à quelque chose d'un peu plus récent avec un groupe finlandais fondé en 96.
Korpiklaani.
Non, qui fait du hard rock avec des costumes de monstres.
Ah,
ça devrait commencer à vous parler tout doucement, hein,
évidemment.
Parce qu'on est plus contemporain. Non, bah attends une seconde déjà.
Bah oui, nous aussi on joue.
On notera que ben du coup visuellement beaucoup de gens ont dit ouais c'est comme Slipknot alors que ben c'est plus ou moins contemporain donc c'est un peu con de comparer. Les costumes de monstres, on avait déjà avant notamment Gwar, hein, qui montrait par le côté exubérant et complètement débile, hein, certaines fois, l'absurdité de l'espèce humaine. Voilà, c'était vraiment leur but. En 2006, peut-être, l'Eurovision, première victoire de la Finlande à l'Eurovision, l'ordi. Avec les costumes de monstre,
oui,
ça y est,
vrai,
Joris percute.
Avec Michel Drucker.
Oui, c'est vrai. Et alors, à l'époque, ça. Ah oui, je me souviens parce que j'ai regardé l'Eurovision à cette époque. Ça fait un scandale.
Tout à fait.
Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de barbare? Enfin, il y avait des mots, des insultes. Enfin, et je trouvais que l'Eurovision, c'est ça. C'est que c'est pas la musique pop. C'est aussi mêler les différents genres et. Et voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'était représenté et ça a été élu.
Voilà, c'est un peu comme la nuit de la radio. Hein.
Une mixité culturelle.
Voilà.
Voilà. Alors, bien sûr, bah, comme tu le disais, la candidature a soulevé de nombreuses controverses, notamment chez les religieux, particulièrement en Grèce. Grèce où, lors de l'Eurovision, ils ont eu le maximum des points. C'est dire à quel point 12, c'est pas représentatif. Ouais. Michel Drucker et Claude Sierre sur France 3 les ont totalement descendus en flammes.
Ouais. Ah bah, c'est pas avec ça qu'ils gagneront l'Eurovision.
Voilà, avec des commentaires totalement désobligeants. Ouais. Mais j'ai envie de dire, d'un autre côté, c'est l'essence du métal. On est là pour déranger. Si les gens viennent nous dire « Ah, c'est bien ce que vous faites », limite, ça nous fait chier. Donc c'est bien. On a fait chier, on est content.
Et il faudrait aussi se reposer des questions aussi, nous, en France. Est-ce qu'on peut pas aller dans l'originalité, quoi? Bon, cette année, c'était Bilal Hassani. Et d'ailleurs, nous aussi, on a essayé de faire un peu.
Attends. Vas-y, j'ai fini.
Non, parce que nous aussi, l'année d'après, après le rock, on essayait de faire un peu plus original, entre guillemets. C'était un groupe un peu plus.
C'était Fatal Picard.
Et c'était les Fatal Picard. Ils ont fini avant-dernier, oui.
Voilà, c'est ça.
Les Fatal Picard ont fini avant-dernier.
C'était l'amour à la française.
C'est ça.
Ouais, je les ai vus en concert cette année.
Ils le rejouent encore.
Ils le rejouent encore. Et ils le disent, hein, vous voyez, on a perdu l'Eurovision, mais c'est avec cette chanson. Et voilà. N'empêche, quand même, on a bien regardé parce qu'on a voulu changer un petit peu notre style. Et vu le groupe qui a gagné, voilà, on s'est dit. Faudrait peut-être se reposer aussi des questions, nous, en France. Hein, aussi.
Et puis, des fois, il vaut mieux perdre la tête haute en ayant essayé plutôt que de rester dans un truc standard et se planter quand même.
Voilà.
Je suis bien d'accord.
Voilà, donc, la victoire qui tenait donc à de la musique originale, puisque ben, personne n'essayait avant. Et ça parle, bien sûr, à une catégorie de fans fidèles et dévoués. Hein, les fans de métal, en général, voilà, c'est pas là où on est le plus nombreux, mais par contre, on reste dedans, en général.
On fait du bruit.
Voilà, et il faut noter également, bien sûr, le show sur scène qui était au-delà de tout ce qui avait été proposé. voilà, qu'on aime ou pas la musique, il faut dire que visuellement, ils avaient envoyé tout ce qu'ils avaient. Il y avait des effets pyrotechniques, il y avait vraiment les effets spéciaux avec les ailes qui se dépliaient.
Ouais.
Bon, là, il n'y a pas à dire, il y avait du travail.
Attends, il y avait le monstre, il y avait une momie. Hein ?
Ah oui, mais allez, si tu commences les costumes, on est mal barré.
Ah oui, c'est ça.
On va plutôt écouter, non ?
Oui, mais ah. Voilà. Donc, forcément, c'est sorti en 2006 sur l'album Via Ocalypse, hein, à la suite. Le morceau, vous le connaissez, c'est Hard Work, Hallelujah. Que de souvenirs, hein, bien sûr, que de souvenirs.
Ouais.
Alors maintenant, dernière petite anecdote finalement, dernière petite histoire en rapport avec le métal et finalement les médias, j'ai envie de dire, la radio. Bon allez, vous donnez pas la réponse, on va laisser les auditeurs jouer. Hein. Si je vous dis le Hellfest 2012, le premier gros festival pour deux jeunes gens du Nord-Pas-de-Calais. Ils se retrouvent ensuite invités pour en parler lors d'une émission métal sur une radio associative. Oh là là, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, ils avaient rencontré l'animateur aux 30 ans de cette radio. Allez, je suis quand même pas chien. Pour ceux qui auraient encore un doute, j'ai un petit indice sonore.
Musicalement incorrect.
Salut à tous, jeunes et moins jeunes, et bienvenue pour la première de Musicalement incorrect. J'espère que vous avez répondu nombreux à mon appel.
I'm Barney, singer from Napalm.
Yeah, this is Kirk Weinstein, guitarist, vocalist for Crowbar.
Alors, moi, c'est Valentin, donc je viens de Noyelles-sous-Bellonne, donc à côté.
Moi, je suis Benjamin, je suis son frère, donc.
We're Oon. We just played Tyrant Fest, you're listening to Musically Incorrect.
Salut, c'est Benjamin Guéry de The Great Old Ones et vous êtes sur Musicalement Incorrect.
Salut, bye bye, portez-vous bien.
Ciao.
Hasta la vista. Voilà, une anecdote que j'aurais envie de repartager avec vous, finalement, puisque c'est comme ça qu'on a démarré la radio, j'ai envie de dire. Mais ça va, tu t'en remets, Ben?
Ouais.
Mais vous étiez tout timide aussi, on a l'impression. Surtout Benjamin, c'est... Voilà,
c'est... Ça n'a pas changé.
Ça...
Oh, quand même, si, il y a ça, plus d'aisance, ça, je te rassure.
Maintenant, j'arrive à faire des émissions tout seul.
Ah, ouais. Ouais, ouais,
comme un grand.
Eh ouais.
Mais voilà, donc on a eu des extraits de Metal Filou pour sa première de Musicalement Incorrect. On a eu Barney de Napalm Death, Kirk Weinstein de Quoba. Donc Odin qui avait joué au Tyrant Fest, qu'on a
groupé islandais, ouais.
Bien sûr Benjamin, donc l'autre Benjamin, hein, celui qui joue dans The Great Old Ones, ouais. L'investigateur bon, du projet. On a eu énormément d'interviews, hein, depuis, l'air de rien. En plus de cela, on a eu entre autres Psycup, Alveici, Watching Christ, Tankard, un très bon
Tankard,
moment. Tankard.
Ouais.
Bon voilà, on est vraiment très fiers de ce qu'on a pu accomplir.
Tagada Jones.
Tagada Jones, c'est vrai, avec donc Arnaud de Black Bomba qui passait tout le temps devant le micro. Et qui demandait où était sa bière. Voilà, c'est des grands moments de radio.
Bon, aussi, l'interview qu'on n'a jamais diffusée, hein, c'était The Haunted, parce que l'enregistreur n'a pas fonctionné.
Oui, alors ceci, c'est fort. Ouais. L'enregistreur a fonctionné et à la fin, il a avalé notre interview. Il ne nous l'a pas rendu.
Ah, ça m'est déjà arrivé, ça. Et voilà. On est un peu rageux. À la fin, on est...
Et voilà. Et donc, ben, Musicalement Incorrect, démarré par Metal Filou le 28 octobre 2009. Et ben, depuis, Benjamin et Valentin sont venus de manière régulière, on va dire depuis 6 ans, un peu plus même pour être précis.
Ah ouais ?
Et ouais, t'as vu, hein, ça fait beaucoup, hein, l'air de rien. Et je sais pas si tu te souviens, parce que bon, jusque-là, j'ai été gentil avec vos oreilles. Il est presque minuit, il est l'heure que je commence à casser un peu les bonbons pour rester poli, pour pas dire casser les couilles. Voilà. Lors d'un premier, je sais pas si c'était le premier, mais lors des premiers passages, il y a un moment où j'étais très content de ramener un truc bien violent histoire d'emmerder les gens.
Machine Head ?
Non. À ton avis, quel est mon groupe préféré, à peu de choses près
Ah oui, évidemment.
Voilà.
Alors, je crois que c'est en Europe de l'Est.
Voilà, en Pologne.
En Pologne, oui.
Voilà, du Black and Death. Ah, ça fait. En général, je m'en souviens parce que j'avais ramené ça vraiment. J'ai dit, bon, bah, en général, c'est l'heure où on va mettre grand-mère couchée. Quelque chose dans ce coup-là. Donc là, si c'est pas encore le cas, bah, vous savez, vous êtes préparés. Hein. C'est quelque chose de très brut dans le son.
Ouais.
Et moi, ça me fait plaisir de vous en rediffuser de temps en temps. On va se laisser là-dessus. Et après, eh bien, on retrouvera eh bien, l'histoire de la radio en jazz. Hein. Donc, ce sera Daniel qui rigole, là. Mais,
oui.
Il nous a préparé quelque chose de très construit.
Choc brutal.
On va en profiter. oui et non, hein, parce que bon, voilà, c'est deux formes de culture. Behemoth, je suis revenu sur l'album de 2004 hein, qui s'appelait Demigod. Et c'est le premier morceau de Behemoth que j'ai passé, ça, j'en suis
Demigod,
sûr.
Demigod, oui.
Non, ben, ça, c'est l'album, mais le morceau... C'est Slaves ah, Charles oui. Serve. Bon courage cool. pour vos oreilles.
C'est la nuit de la radio.